Paul Sécure, épisode spécial. Je suis avec Maxime. Comment vas-tu?
Très bien, très content d'être là ce matin.
Oui. Je t'ai invité parce qu'il y a eu, il y a déjà quelques temps, une grande chicane dans le monde des CMS entre le propriétaire de WordPress automatique et une compagnie concurrente, si on veut, qui héberge un peu puis qui contribue-ish à l'écosystème qui est WP Engine, qui ont amené une situation finalement assez grave. Je vais te laisser faire un historique puis poser des questions au fur et à mesure.
Parfait, parfait. Donc, officiellement, aux yeux des gens sur le web, l'histoire commence en septembre 2024. Donc, il y a une conférence dans le monde WordPress qui s'appelle le WordCamp. Conférence qui a lieu partout dans le monde, dans différentes villes, organisée par des bénévoles. Puis depuis plusieurs années, dans le fond, il y a un événement majeur dans les WordCamps qui s'appelle le WordCamp US. Donc, qui est l'événement où est-ce que tous les gros partenaires sont là, où le fondateur de WordPress, Matt Mullenweg, va participer. Et cette année, dans le fond, souvent ce qui arrive, c'est que Matt Mullenweg va fermer la conférence, donc être des têtes d'affiche pour l'événement. Et cette année, lors de son... pas de son discours, mais lors de sa présentation, la présentation a pris un virage un peu drastique où finalement il s'est mis à s'attaquer directement à WP Engine, une entreprise de l'écosystème, en les traitant de cancer pour l'écosystème. Donc, ce qu'il faut savoir...
C'est quand même assez violent comme énoncé. Là. Ça, c'est genre, je veux donner un coup de pied dans une guerre puis on y va pas avec à moitié. Là.
Exactement. Puis, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que le WordCamp, de manière générale, c'est un événement où ça coûte très peu cher pour participer. C'est pour inclure tout le monde. Tu sais, par exemple, j'ai participé à plusieurs éditions du WordCamp Montréal. Pour donner une espèce de comparaison, le WordCamp Montréal, un week-end, donc samedi, dimanche, incluant la bouffe, les collations, puis tout ça, ça coûtait 50 $ par personne. Fait qu'une conférence remplie du début à la fin avec un 5 à 7 où est-ce que tu as des boissons alcoolisées qui te sont données. Le but étant pas de faire de l'argent, mais plutôt de inclure le plus de gens possible. Donc, c'est vraiment pas à but lucratif. C'est une mentalité, vraiment la mentalité de l'open source, de redonner à la communauté. Fait que ça se produise pendant WordCamp. C'était vraiment un événement hors norme, si on veut. Donc ça a surpris beaucoup de gens. Et ce qu'il faut savoir, c'est bon, qui est WP Engine? Donc WP Engine, c'est un hébergeur qui est dédié à WordPress. Donc j'ai un site web, je dois héberger mon site, donc je dois le déposer sur un ordinateur, sur le web pour qu'il soit disponible. WP Engine offre ces services-là et a créé, dans le fond, son service autour de WordPress. Donc, quand on choisit ce genre d'hébergeur-là, bien, tous les outils dans notre compte sont liés à WordPress. Donc, si tu n'as pas un site WordPress, il n'y a pas vraiment d'avantage à utiliser ce genre d'hébergeur. Dans le fond, depuis quelques années, on voit une certaine consolidation là, du marché. Donc, les gros joueurs achètent des petits dans le but de être plus prospère, assurer, dans le fond, une meilleure distribution de leurs services et de leurs produits. Donc, WP Engine a fait l'acquisition de plusieurs produits. Le plus fameux ou le plus célèbre, si on veut, qui a été acquis par WP Engine dans les dernières années, c'est ACF ou Advanced Custom Fields. Donc, qui est un plugin utilisé par des millions de sites web. Ce plugin-là a été créé par une seule personne à un certain moment. Après ça, revendu à une compagnie qui s'appelle Delicious Brains et WP Engine a racheté Delicious Brains, donc a mis la main sur le plugin. Donc, si on revient à ce fameux 20 septembre, lors de la clôture, là, tout le monde capote un peu. Voyons donc, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi que Matt Mullenweg, fondateur de WordPress, frappe à qui mieux mieux sur l'entreprise? On comprend pas trop. Puis ça met le chaos dans l'industrie. Trois jours plus tard, 23 septembre, WP Engine réplique et envoie une mise en demeure pour diffamation et extorsion à Matt Mullenweg et à Automatic. Automatic qui est l'entreprise derrière WordPress. Les choses qui sont rapportées là-dedans, c'est assez spécial. Il y a des communications qui ont été coulées, si on veut, entre Mullenweg, la haute direction de WP Engine. Là, les gens comprennent pas trop qu'est-ce qui se passe. mais faut revenir un petit peu dans le temps, OK? Parce que des fois, il y a des choses qui passent sous le radar, mais les attaques avaient commencé là, depuis à peu près en juillet 2024 où Mullenweg commence à envoyer des petites pointes à gauche, à droite à WP Engine. Et ce qu'on apprend par la suite, c'est que on comprend que, dans le fond, WP Engine fait énormément d'argent avec ses services liés à WordPress. WordPress est un produit communautaire. Il y a une volonté dans l'open source de redonner. Donc, si tu fais de l'argent avec le produit, tu redonnes au produit. Et je ne veux pas dire WordPress, je veux dire Mullenweg directement, trouve que WP Engine fait trop d'argent et ne redonne pas assez à la communauté. Donc, il essaie de mettre de la pression pour qu'eux redonnent une partie de leurs profits ou de leurs revenus, en fait, parce qu'ils se foutent un peu, je pense, des profits. C'est vraiment une partie des revenus. Pour que ce soit redonné à WordPress, pour qu'ils puissent continuer d'investir puis tout ça, parce qu'ils trouvent que leur part de profit par rapport à leur investissement en temps et en ressources dans le projet, c'est pas suffisant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a absolument aucune obligation de la part de quiconque de redonner. Donc, WordPress,
ça d'un. Puis aussi, il faut considérer que Mullenweg a sa propre compagnie qui fait de l'argent aussi avec l'écosystème WordPress. Fait que, tu sais, de cette attaque-là, tu sais, moi, d'un peu extérieur à ce domaine-là, je sens que c'est des chicanes. Moi, tu fais plus d'argent que moi, c'est injuste, je veux cet argent-là.
Ça, honnêtement, de l'extérieur, ça ressemble pas mal à ça. Dans le sens où il n'y a pas d'obligation. Mullenweg a créé une initiative il y a plusieurs années qui s'appelle Five for the Future, qui se veut dans le fond de dire si tu participes ou si tu profites de l'écosystème de WordPress, tu devrais redonner 5% d'une quelconque manière au projet. Fait que ça peut être en contribution volontaire, des heures, puis ce genre de choses-là. Et Mullenweg tient un espèce de petit calepin sur lequel il note les contributions de WP Engine. Et lui, il trouve que c'est pas assez. Ils font trop d'argent. Et donc, c'est pour ça qu'ils mettent de la pression pour qu'eux autres, ils contribuent plus au projet. Et là, on joue après ça, on joue vraiment sur des mots, là, dans le sens où il y a des termes qui sont utilisés sur le site de WP Engine, que le mot WordPress est utilisé selon Mullenweg dans différents noms de packages, qui laissent sous-entendre que peut-être ce serait confusant pour un utilisateur moyen de savoir qui est réellement WordPress parce que Engine se fait passer pour WordPress. Déjà, juste le nom WP Engine, donc le WP qui vient de WordPress. Que lui, il joue autour de ça puis il essaie de faire en sorte que si vous voulez utiliser notre nom, bien, vous allez payer pour. Et là, il y a un deal qui se négocie ou qui tente de se négocier derrière les rideaux, derrière les portes closes. Puis ça va pas au goût de Mullenweg. WP Engine ne veut pas payer. Et c'est pour ça qu'il donne le fameux coup de pied dans le nid de guêpe au mois de septembre. Fait que, on avance de 2 jours. Donc, tout ça pour dire que ça commence le 20, après ça, on a le 23, on a la réplique. Et le 25 septembre, Mullenweg décide de bloquer l'accès aux serveurs de WP, en fait, de bloquer l'accès des serveurs de WP Engine au dépôt de WordPress. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les thèmes et les plugins, extensions de WordPress qui sont gratuits sont hébergés sur les serveurs de WordPress. Et quand on veut ajouter un plugin ou un thème, on passe par le processus, il est déposé sur le site de WordPress. Et lorsque, comme développeur, je fais une mise à jour, je redéploie sur le site de WordPress et cette mise à jour-là est disponible à l'ensemble des sites qui utilisent ce produit-là. En bloquant l'accès au serveur de WP Engine, ça fait en sorte qu'il n'y a plus aucun client de WP Engine qui est en mesure de faire des mises à jour sur quoi que ce soit qui est rendu disponible. On peut dire, ben, c'est quoi le problème si tu n'as pas accès aux mises à jour? C'est sûr que si c'est une mise à jour pour, par exemple, ajouter une fonctionnalité, c'est pas si grave. Mais si ça corrige un bug ou que ça corrige une faille de sécurité, c'est là que ça devient problématique. WP Engine n'a pas 100 clients. Il y en a des centaines de milliers, peut-être même des millions. En fait, on parle souvent en nombre de sites, fait qu'on sait pas exactement un client a combien de sites, là, mais ça se compte pas en centaines, disons ça comme ça. Donc là, en bloquant ça, ben là, ça fait en sorte que là, WP Engine doit se retourner et trouver une solution alternative, développer une façon d'aller télécharger l'ensemble du catalogue pour le rendre disponible à ses clients. Donc, les gens commencent à creuser l'histoire pour essayer de comprendre, OK, mais là, c'est Mullenweg qui a l'air d'agir au nom de WordPress. Et on se rend compte 5 jours plus tard, donc le 30 septembre, que WordPress.org, donc là, je veux pas rentrer trop dans les détails de Le nom est compliqué. Donc, on a deux sites web. On a WordPress.org qui est le logiciel et où tout l'hébergement, tout l'environnement est géré. Donc, WordPress.org, c'est là que c'est géré. Et il y a aussi WordPress.com qui est une installation de WordPress. Donc, moi, comme utilisateur, je peux aller juste me créer un compte et j'ai pas à télécharger, installer, gérer tout ça. Donc, la partie .org qui est l'environnement open source qu'on connaît, on apprend que c'est possédé personnellement par Matt Mullenweg et que, au final, tout ce qui se passe sur cette plateforme-là n'est pas régi par la fondation qui a été créée plusieurs années auparavant pour être un peu l'espèce de gardien de tout ça et que, au final, c'est lui qui possède ça. Donc, si cette personne disparaît pour peu importe la raison ou décide de prendre une décision, ça ne regarde que lui. Donc là, ça secoue encore plus l'écosystème parce que là, tout ça est contrôlé par une seule personne, alors que la communauté avait l'impression que le transfert à la fondation, qui avait été fait là, des années auparavant, faisait en sorte que c'est pas lui directement qui contrôlait ça. Et la fondation avait été créée justement pour créer cet effet de transparence, mais on se rend compte que, oups, la transparence, c'est plus une apparence de transparence plutôt qu'une réelle transparence.
Ouais, puis déjà que les longs WordPress.com et WordPress.org existent, c'est déjà un élément de confusion qui pour moi a été très, très, très difficile à démêler au début de comprendre parce que WordPress.com vend des services, on va dire comme Jetpack, par exemple, qui est rattaché à cet écosystème-là et ce que ça ramène. Et l'effet écosystème, parce que là, rendu à ces moments-là, quand ce grand événement-là s'est passé, c'est quand même un moment où WordPress est rendu très majeur dans l'industrie. Ils doivent contrôler un pourcentage quand même très élevé des CMS. L'effet sur l'écosystème, parce que tu le mentionnes un peu, ça doit être quand même assez dramatique. Ça a dû créer un sentiment de panique chez bien des compagnies qui vivent, notamment la tienne, de ces écosystèmes-là qui s'appuient là-dessus.
Ben, en effet, donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est de première ligne. Donc, on se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qui va arriver, c'est quoi l'impact sur nos clients. Donc, pour les gens de l'interne qui suivent ça de très près comme nous, ben évidemment, on est préoccupés. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Mais en toute transparence, pour la majorité, sinon je veux dire quasiment la totalité de nos clients et même certains partenaires, cet événement-là, t'sais, les gens l'utilisent, mais ne suivent pas nécessairement l'actualité. Donc, nous, c'est préoccupant parce qu'on se dit, t'sais, nous, on gère des mises à jour, on gère de la sécurité en lien avec WordPress. Donc, ça peut nous causer des torts par rapport aux services qu'on offre à nos clients. Pour le commun des mortels, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont même pas rendus compte et qui savent absolument rien de toute cette histoire. Fait que nous, de notre côté, très, très préoccupés. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en parle à nos clients? Est-ce que c'est pertinent d'en parler? Est-ce que c'est une guéguerre qui va se régler dans les prochains jours, prochaines semaines, puis on risque juste d'alarmer tout le monde inutilement? C'est les questions qu'on se pose à ce moment-là. Puis pour ce qui est de la confusion WordPress.com versus WordPress.org, quand la fondation a été créée, il y a tout un jeu de coulisses autour de qui peut utiliser le nom et il y a beaucoup d'exceptions qui ont été faites lorsque le nom a été remis, lorsque les clés ont été remis à la fondation pour dire ces règles s'appliquent sauf à WordPress.com qui se permet certaines libertés du genre. Donc, en même temps, il faut savoir que c'est lui qui l'a développé. On sait dans quoi on s'embarque si on va lire par rapport à ça. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, WordPress.com, WordPress.org, qu'est-ce qui est quoi? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi les limitations? C'est honnêtement assez compliqué là, de s'y retrouver. Donc, on avance de quelques jours. On est rendu au 2 octobre. WP Engine, dans le fond, passe de la mise en demeure à une attaque légale officielle. L'attaque légale est en lien avec des pratiques anticoncurrentielles et de l'abus de pouvoir. Et c'est là qu'officiellement, on voit des échanges qui ont eu lieu par courriel, par texto entre Mullenweg et la haute direction parce que jusqu'à présent il y a un peu de oui-dire, il y a comme certains documents qui sont coulés, mais là quand le document est déposé officiellement devant la cour, voilà, on sait que OK, c'est pas juste on essaye de faire peur, on est vraiment rendu là à une autre étape. En parallèle, parce que dans ce peu de jours-là, tout le monde est un peu secoué à l'interne, mais à l'interne, je parle dans ceux qui sont des développeurs, dans les agences comme la nôtre, et surtout aussi à l'intérieur de l'entreprise automatique qui gère, dans le fond, la partie WordPress.com et tous les services qui sont commerciaux. Et les gens commencent à trouver que c'est vraiment spécial la façon que c'est géré. Donc, les discussions n'ont pas lieu en privé, elles ont lieu en public. Matt Mullenweg publie sur son blog pratiquement à tous les jours, fait des publications sur les réseaux sociaux de l'entreprise et même de la partie .org pour lancer des flèches et des attaques contre Engine. C'est, en termes de maturité, je veux dire, ça a fait en sorte de se poser beaucoup de questions et au point où, à l'interne, dans l'environnement automatique, les employés commencent à se dire « Wow, comme à quoi on participe présentement? » OK? Puis eux autres, ils participent pas activement, ils participent par la bande juste en restant là. Donc, voyant ça, Mullenweg décide de dire « Ben, ou bien vous êtes avec moi, ou vous êtes contre moi. Donc, je vous offre la possibilité de sacrer votre camp. Mais si vous faites ça, vous reviendrez plus et vous aurez plus d'accès à WordPress pour potentiellement le reste de votre vie. Donc, les accès à leur compte pour du code, puis tout ça, puis créer des plugins, ce genre de choses-là. Et à ce moment-là, c'est 159 employés, donc 8,4%. Donc, pas loin de 10% des gens qui décident de prendre le package puis de sauter en bas du navire. OK? Ça a été demandé par Mullenweg. Là. Les gens ont eu, je pense, 24 ou 48 heures pour prendre leur décision. Puis, fait qu'il se passe ça à ce moment-là. Il y a des gens qui n'ont pas sauté du bateau, qui, quand les jours qui suivent, vont avoir hésité puis tout ça. Donc, Mullenweg décide de réouvrir son offre et il y en a encore plus qui vont quitter. On parle d'à peu près une personne sur 10 chez Automatique. Automatique, c'est pas 10 personnes qui travaillent là. On parle de centaines, voire milliers de personnes qui travaillent là. Donc, d'avoir une aussi grande quantité de gens qui travaillent là, qui décident de sauter alors qu'on a très peu d'informations. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une certaine instabilité dans les réactions de Mullenweg parce qu'il pense pas puis il réagit à chaud comme quelqu'un qui a aucune expérience et qui est pas une personne qui dirige une entreprise de la taille et du sérieux de WordPress. Ce qu'il faut savoir, c'est que WordPress, tantôt tu parlais des parts de marché, c'est impossible de savoir c'est quoi l'inventaire du web, mais on parle de entre 40 et 50 et même 60% de l'écosystème des CMS qui serait contrôlé par WordPress. Donc, c'est pas un site sur 1000. Et il faut savoir que des CMS, là, il y en a des centaines, voire des milliers qui sont disponibles. Donc, WordPress, c'est le grand joueur et en avant, là, par, tu sais, je pense, si on dit que WordPress a, supposons, 45%, l'autre d'après est à 3, là. Tu sais, fait que c'est même pas proche. OK? Donc, l'importance de WordPress dans la vie de ces gens qui travaillent, de toutes les agences, de tous les entreprises qui ont des sites utilisant WordPress, on a raison, là, de se poser des questions puis de douter encore plus quand on entend qu'il détient certaines choses personnellement et que personne ne peut rien dire. Que ça va pas super bien là et on a raison d'être inquiet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que WordPress, c'est une plateforme qui est open source. Donc, open source, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est le code est disponible et les gens peuvent le prendre et faire ce qu'ils veulent avec. WordPress vient avec une licence GPL. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que moi, si je voulais, demain matin, je peux lancer un projet qui s'appelle MaximPress, par exemple. Je prends une copie du code, je renomme certaines choses, je fais des ajouts, des retraits et je republie le code ou je pourrais absolument rien toucher puis appeler ça MaximPress et c'est totalement légal de faire ça selon la licence. Donc, le code est bâti pour le redonner à la communauté. Il y a certaines règles, mais grosso modo, on peut à peu près faire ce qu'on veut. WordPress héberge des plugins sur son site. Les plugins, par définition, doivent être GPL. Ce qui veut dire que WordPress peut faire ce qu'il veut avec, en fait, Matt Mullenweg peut faire ce qu'il veut avec tout ce qui a été déposé sur son site. Et il y a dans les guidelines, donc les règles à suivre, une règle qui est mise comme quoi si une extension a des comportements qui menacent la sécurité de l'écosystème, on peut la reprendre et faire ce qu'on veut avec. OK?
C'est quand même assez brutal comme règle, je veux dire. Puis c'est là, ça sent le débat juridique de GPL, mais GPL est quand même assez invasif, là, ce que les gens se rendent pas compte, là. Contrairement au SGPL qui met une coupure entre les plugins et le principal. Dans le cas du GPL, il n'y a pas de coupure. La licence descend et même si c'est légal d'aller jouer là, comme il fallait, mais c'est quand même d'une volonté très brutale d'aller dire je peux reprendre ce que tu as fait puis tant pis pour toi. Là.
Ouais. Ouais, puis ce qu'il faut savoir, c'est que la licence GPL n'a jamais été challengée officiellement en cours. Donc, tout ce qui se passe, tout ce qui est dit par rapport à ce qui est possible de faire et où ça commence et où ça finit, tout ça n'est que théorique. Il y a eu plusieurs conflits dans le passé entre Matt Mullenweg / WordPress et certains créateurs par rapport au fait que certaines personnes avaient décidé de créer des plugins qui n'étaient pas GPL, de ne pas les distribuer sur le dépôt de WordPress. Donc, Mullenweg officiellement ne peut rien dire. Mais pour lesquels il a essayé de leur mettre des bâtons dans les roues. Il y a des cas documentés là, de ça, dont un thème qui s'appelle Thesis, où il y a eu une guerre publique il y a plus de 10 ans de ça. Et Mullenweg avait décidé de créer un produit similaire avec le même nom, de le distribuer d'une façon où est-ce que ça allait mettre des bâtons dans les roues au niveau du déploiement de celui qui jouait contre les règles que Mullenweg voulait dicter. Donc, mais comme on ne s'est jamais rendu en cours, on ne sait pas exactement où ça commence et où ça finit. Par contre, les avis juridiques, où est-ce que là, il y a l'air d'avoir un certain consensus, c'est de dire le code, on peut le réutiliser, mais les médias. Donc, si par exemple, moi, je lance MaximPress et que je mets mon logo, le logo de MaximPress, par exemple, tu ne pourrais pas le redistribuer. Donc là, il faudrait que tu fasses des changements. Mais encore là, tout ça n'est que théorique. Donc, la licence, elle est GPL. Le guideline, je l'ai expliqué. Au début, on parlait de WP Engine qui avait acheté, il y a quelques années, Delicious Brains, qui a développé, en fait, qui était le propriétaire de Advanced Custom Fields, qui est disponible sur le dépôt de WordPress, qui est utilisé par des millions de personnes. Et à ce moment-là, Matt Mullenweg décide que ça, pour la sécurité de l'écosystème, il doit reprendre le contrôle de Advanced Custom Fields. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il bloque tous les accès au repo. Donc, je vais souvent dire repo, là, mais le dépôt et le repo. Repo, c'est la version anglaise. Donc, il bloque les accès des gens de WP Engine au dépôt de WordPress à tout leur code et il reprend la possession de l'extension Advanced Custom Fields. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'environnement WordPress, on a souvent une version gratuite du plugin qui est déposée sur le dépôt de WordPress et on a une version qui est payante qui vient en complément à la version gratuite. Donc ça, c'est le modèle de la plupart des solutions payantes avec WordPress. Donc, je t'offre ma version gratuite incomplète et après ça, si tu veux payer, tu peux faire la mise à jour vers l'autre version qui ne sera pas hébergée sur le dépôt de WordPress parce que WordPress ne permet que la publication de trucs gratuits. Mais c'est un comportement qui est accepté, c'est la façon de faire. Donc, eux autres, c'est leur modèle. Ils ont une version gratuite et si tu veux acheter la version payante, tu cliques sur le bouton, ça t'amène sur l'autre site, puis là, tu peux faire la mise à jour, puis tout ça. Donc, en prenant le contrôle de ça, ça fait en sorte qu'il n'y a plus de possibilité pour WP Engine de pousser les gens vers leur version payante et ils ne contrôlent plus leur propre code. Donc, ça crée vraiment un chaos dans l'industrie parce que les gens se disent, OK, mais là, s'il vient de récupérer ce plugin, qu'est-ce qui peut arriver avec mon plugin? Avec mon thème. Et c'est quand même des entreprises qui vivent de ça.
Mais WP Engine aussi vit de ça. Là. Fait que eux autres aussi, ça a dû donner un coup quand même assez brutal sur leur capacité de monétiser. Parce que, je veux dire, dans la vraie vie, on aime ça manger de la nourriture. Fait que il faut la payer, cette dite nourriture-là. Dans le réel, c'est comme ça. Fait que oui, c'est bien l'open source, mais il faut quand même être capable de dériver des revenus ou monétiser cette capacité-là. Puis WP Engine, c'est justement une des stratégies qu'ils ont pris de pouvoir tirer un revenu adéquat et payer des employés à travers ça.
Oui, exactement. Puis non seulement ça, il y a plusieurs choses qui sont mises, plusieurs bâtons qui sont mis dans leur roue, puis ça vient toucher aussi plusieurs sites qui sont hébergés parce qu'en bloquant les serveurs, ça fait que les mises à jour n'ont plus lieu. Leurs ingénieurs doivent mettre les bouchées doubles pour trouver des voies de contournement. Il y a des gens qui cessent d'envoyer leur nouveau site créé en hébergement chez WP Engine pour pas être pris dans cette espèce de guerre-là. Il y en a qui quittent le navire. là, ça commence à brûler pour vrai, là. Donc, personne la trouve drôle. Puis après ça, dans les développeurs qui développent, ben là, tout le monde commence à se dire, est-ce une bonne idée de publier sur le repo de WordPress? Donc, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Puis on se dit, si le plugin est repris pour je ne sais pas combien de temps, et à ce même moment-là, il y a supposément une faille de sécurité qui est découverte dans Advanced Custom Fields. Donc, ça serait la raison pour laquelle ils reprennent le contrôle. Sauf que là, on se met à avoir deux dépôts de code pour le même produit qui s'en vont dans deux directions différentes. Ça va être comme ça pour combien de temps? Personne ne le sait, tout le monde s'inquiète. Et là, ce que fait la réplique de WP Engine, c'est de dire, ben, si vous voulez télécharger la version gratuite, vous devez maintenant venir sur notre site. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, je suis dans WordPress, je vais dans la section extension, je fais une recherche, je suis pas conscient du conflit, je suis pas conscient de la nuance d'aller le télécharger via le site de WordPress, via mon installation WordPress versus le site d'Advanced Custom Fields. Donc là, on se pose beaucoup de questions. La version pro, il n'y a pas de problème, étant donné que le système de mise à jour s'est distribué à l'extérieur de l'environnement. Donc, eux, ça continue de fonctionner. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et si on avance un petit peu, donc on était en octobre à peu près à ce moment-là, on avance en décembre et la justice américaine ordonne une injonction préliminaire automatique doit rétablir les accès de WP Engine au dépôt de WordPress. Pour être certain de leur coût, ce qu'a décidé de faire Matt Mullenweg et son... J'allais dire son équipe, mais c'est Matt Mullenweg directement qui fait ça. Ce qu'il a décidé de faire quand il a pris le contrôle de Advanced Custom Field qu'on appelle ACF, il a décidé de créer une copie qui s'appelle SCF, Secure Custom Fields. Donc, un clone. Donc, au départ, il possède les deux, mais j'ai l'impression qu'il sait que ça n'en restera pas là. Donc, ce qui est fait, c'est qu'il modifie le code de ACF pour que les mises à jour se fassent maintenant sur SCF. Donc, il y a, je ne sais pas combien de gens qui sont passés de ACF à SCF sans même se rendre compte, parce qu'un est une copie de l'autre. Là, ce qu'on se dit, c'est au départ, OK, mais c'est quoi l'impact? Il n'y a pas tant d'impact, le code est pareil. Mais là, on sait que c'est, quand on réfléchit, on se dit, ACF est un produit où il y a des développeurs qui travaillent là-dessus à temps plein. Il y a une évolution, il y a du soutien. Matt Mullenweg a décidé d'agir de manière spontanée, sans trop réfléchir en créant ce produit-là. Quel est l'avenir de ce produit-là? C'est un produit qui est 100% gratuit. Donc, il n'y a pas d'argent à faire avec ça. C'est quoi les ressources qui vont être mises pour continuer cette extension-là? Dans les jours, semaines, mois à venir, il n'y a pas de problème. Mais l'année prochaine, est-ce que le code s'en ira dans une direction tellement différente que les gens vont se retrouver à être pris avec cette solution-là qui était juste une façon, encore une fois, de mettre des bâtons dans les roues de WP Engine? Personne ne le sait. Et même nous, à l'interne, on se pose des questions à savoir, là, on fait des mises à jour, on se rend compte que nos clients qui avaient la version gratuite passent d'ACF à SCF. Est-ce qu'on renverse cette décision-là? Est-ce qu'on contacte nos clients pour leur dire, voici ce qui vient de se produire, voici ce qu'on recommande? Mais on ne sait pas vraiment ce qu'on recommande parce qu'on fait partie de l'action au jour le jour. Donc, c'est vraiment problématique, là, même pour nous, de savoir qu'est-ce qu'on fait. On fait de l'entretien pour les sites de nos clients. Est-ce qu'on devrait l'inclure dans nos services? Est-ce que les clients devraient payer pour ça? Nous, on vit ça d'une manière où on sait juste pas quoi faire. On essaie d'avoir du recul sur une situation qui évolue un peu comme l'IA présentement. Ou est-ce qu'on essaie de se dire, est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que j'ai choisi la bonne technologie? Puis la technologie d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, puis après-demain, ça revient à ce que c'était, puis on avance, on recule, ça s'en va dans toutes les directions. Donc, c'est un peu comme ça qu'on sent à ce moment-là.
Oui, un peu barouetté, puis c'est vrai, difficile justement pour vous autres de prendre la décision, parce que là, tout dépendant de comment l'orientation, parce que là, ce qu'il fait est clairement un geste hostile pour voler puis nuire à l'autre. Ouais. Tout en sachant que la plupart des gens ne verront même pas le transfert, là, parce que comme tu le mentionnes très bien, c'est transparent, c'est en dessous, fait qu'ils ne le voient pas, puis ça se peut qu'ils l'abandonnent en cours de chemin, justement parce que son geste de nuisance a fait ce qu'il avait à faire. Donc, WP Engine abandonne ce plugin-là parce qu'il n'y a plus d'argent à faire avec, mais après ça, l'autre l'abandonne aussi, fait qu'on se retrouve avec tout le monde tourné somme toute perdant. Les gens qui ne le savent pas, c'est encore pire. Puis vous autres, ben, vous avez tout nettoyé le gâchis qui est associé à cette chicane-là.
Oui, oui. Nous, finalement, la décision qu'on prend, c'est les clients ont installé ACF, ils n'ont pas installé SCF, ils sont victimes de cette guerre-là. Donc, on décide, nous, à l'interne, de redéployer ACF sur l'ensemble des sites qui, où la mise à jour a eu lieu vers SCF. Juste parce que ben, c'est le choix qui avait été pris, puis là, on considère que les clients sont un peu pris en otage. Donc, on le fait de notre propre chef sans facturer les clients. Puis, ça fait partie de la veille qu'on se dit qu'on doit faire dans un service de maintenance comme le nôtre. On avance, on est rendu en janvier 2025. Donc, quelques mois là. Donc, tout ça se passe sur quelques semaines. OK? Automatique, suite à, le dépôt des actions légales et tout ce qui vient avec ça, commence à sentir la pression de... OK, avant, quand il arrivait un problème, on faisait ce genre de choses-là et la personne reculait et faisait ce qu'on lui disait. WP Engine est backé par un fonds d'investissement de plusieurs milliards de dollars. Donc, eux autres, avant de commencer cette bataille-là, se sont posé des questions et se sont dit, si on va à la guerre, est-ce qu'on y va pour vrai ou si on y va pas pour vrai? Et la réponse est, si on va à la guerre, on va à la guerre. Donc là, je pense que pour une première fois, Matt Mullenweg a pris une bouchée plus grande que ce qu'il était capable de gérer. Et là, il commence à sentir la soupe chaude. Donc, il y a eu le départ à l'interne. Donc, 10% des gens, ces gens-là faisaient pas rien. Donc, ça a un impact sur les produits, les services du côté payant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il réinvestit une partie des heures de ses employés-là dans la solution gratuite où, ben, veut pas, il a son agenda lui aussi. Donc, il utilise ces ressources-là pour continuer de développer l'outil. Sauf que là, avec les départs, avec la pression financière, la pression doit venir de partout. Donc, ils décident de réduire les contributions d'à peu près 4000 heures par mois à 4000 heures par semaine de son équipe à peu près 45 heures. Ce qui fait en sorte que là, soudainement, il y a comme une stagnation du jour au lendemain. Et là, le blâme revient totalement à WP Engine. C'est tout de leur faute. Pourquoi qu'il est obligé de faire toutes ces coupures-là puis de réassigner les ressources ailleurs? Là, on se dit, OK, qu'est-ce qui va arriver? Il repousse ça un peu dans les mains de la communauté, mais en même temps, il garde les accès. Donc là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. On se sent un peu impuissant. On veut aider, mais en même temps, on veut pas nourrir la bête en allant se connecter sur l'environnement. Et il y a des petites choses subtiles à gauche, à droite qui se passent du genre, il y a un petit crochet quand on va se loguer dans notre compte WordPress qui dit « Je ne suis pas un employé de WP Engine. » Puis là, tu sais... Des petites choses comme ça qui sont anodines, mais qui, quand on prend conscience de l'ensemble de la chose, cette personne essaie de contrôler et semble de mauvaise foi. Il y a une grande, grande perception, du moins de mon côté, comme utilisateur, administrateur de site. Et aussi, je m'implique dans la communauté là, depuis plus que 10 ans. Là. Donc, puis là, je me dis, j'ai pas envie de collaborer à ça, de participer à ça. Donc, j'essaie de me retirer, mais en même temps, je veux pas non plus laisser tomber cet environnement qui met du pain sur la table, veux pas. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait une stagnation de l'évolution de l'écosystème en général. Et jusqu'à un certain point, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Je me dis, on développe à vitesse grand V, puis c'est rendu que les faux bénévoles, en fait, les employés d'automatique qui donnent du temps bénévolement en étant payés à la plateforme, ben, emmènent large. Puis, il y a beaucoup de choses qui évoluent ou qui avancent qu'on se demande pourquoi on travaille là-dessus? À qui ça sert? Il n'y a pas l'aspect communauté est pas là tant que ça. BlackRock, qui est derrière Automatique, dévalue ses parts dans Automatique. Donc, il y a plusieurs personnes qui commencent à se dire que, Matt Mullenweg est un peu un loose cannon, puis on ne sait pas trop où ça s'en va tout ça. Après ça, dans le fond, en août 2025, là, je parlais de la stagnation, donc la version 6.8, là, retardée, parce que ben, personne ne travaille dessus. Donc là, on passe d'un cycle où est-ce qu'on vise 3 versions majeures par année à une seule par année. Où moi, je me dis, jusqu'à un certain point, on fait beaucoup, beaucoup de mises à jour dans l'environnement WordPress. T'sais, pour l'utiliser à tous les jours, je peux dire que dans les dernières années, t'sais, oui, il y a eu Gutenberg qui permet de faire le design visuel de nos pages, qui a été un avancement majeur dans l'outil. Outre ça, je dirais que la majorité des avancées servent très peu ou pas nos clients comme au quotidien. Fait que moi, je vois pas ça d'un mauvais œil qu'on passe de 3 à 1. Je me dis, pour moi, c'est juste moins de risques pour les clients. T'sais, la majorité des gens vont créer leur site one-shot, puis après ça, c'est de l'ajout de contenu. Dans l'ajout de contenu, il n'y a pas tant d'évolutions significatives qui ont été faites. Fait que pour moi, c'est quand même possible.
Oui, puis des évolutions pour des évolutions, il y a des limites. Là. Il y a un niveau de qualité ou d'utilisabilité qui, après ça, on n'a plus tellement de gains. On le voit d'ailleurs avec les téléphones cellulaires actuels. Ça fait déjà très longtemps que les gains qui sont faits sont marginaux et ne justifient pas, malgré les grandes campagnes de publicité, de mettre à jour nos téléphones. Par exemple, il y a un niveau où c'est marginal, puis ça fait juste rajouter de la complexité, surtout dans un cas de WordPress. Pour les gens qui n'ont pas de service géré comme vous offrez, là, ça ajoute de la complexité. Il faut le mettre à jour. Dans ces mises à jour-là, ils cachent des mises à jour de sécurité, naturellement, pour obliger les gens à avancer. Fait que ça crée des complexités qui n'ont pas, à mon avis, pas lieu d'être, surtout pour quelque chose qui est aussi utilisé que ça par beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils font aussi, là, par ailleurs.
Oui, exact. Puis tu m'as volé mon exemple par rapport au téléphone mobile. Moi, je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, à quel point, à l'époque, on signait pour 3 ans. Là, je l'attendais mon 3 ans, là, puis j'avais hâte de le changer parce que mon téléphone était rendu lent. Je dirais, mes 2-3 derniers changements, je les ai faits parce que ça me coûtait moins cher de changer que de garder. C'est la seule raison pour laquelle j'ai fait le changement. Parce qu'en termes de ce que je fais avec le téléphone aujourd'hui, je pense qu'on est rendu à maturité. Puis d'avoir des photos de 70 mégapixels, 100 mégapixels, c'est ça les avancées qu'on fait. On est rendu avec 3 caméras, bientôt on va en avoir 5, qui est un peu comme les lames de rasoir, là, où à un moment donné, après la 10e lame, ça va être quoi? La 11e? Je veux dire, c'est quoi le but de tout ça? Là? Fait que moi, je pense que l'écosystème est rendu à maturité et devrait agir en fonction de où il est rendu. Là, l'AI change la game. Fait que là, peut-être qu'il peut y avoir des nouvelles avancées par rapport à ça. Mais dans les dernières années, j'ai pas trouvé que ça amenait une très, très grande valeur d'avoir un plan qui était aussi rapide de développement. Fait que dans les derniers mois, à partir de ce constat-là au mois d'août, il s'est passé très peu de choses jusqu'à tout récemment. Donc, en février, on a appris qu'il y avait un plan qui s'appelait, en lien avec un restriction of choice, où WordPress pense à mettre en place des processus dans son code de manière à restreindre certains joueurs dans le but de contrôler encore plus l'industrie. Jusqu'à quel point tout ça est vrai ou pas, ça reste à... Il y a plusieurs articles qui sont sortis. Je ne serais pas surpris si c'était vrai basé sur les ajustements passés. Ceci dit, j'ai pas assez d'informations pour dire ça tue des jambes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En mars dernier, WP Engine a racheté WP Packagist et il y a Roots qui a lancé WP Packages pour, dans le fond, amener l'environnement à être distribué. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, on parlait au début de WordPress contrôlait toutes les extensions, tous les thèmes gratuits. Quand on s'est rendu compte que concrètement, OK, ce n'est pas WordPress qui contrôle, mais c'est Matt Mullenweg, il y a plusieurs entreprises qui ont décidé de travailler sur des solutions indépendantes dans le but de distribuer l'environnement pour éviter que ce genre de choses ne se reproduisent et inciter les développeurs à ne plus déployer leur code sur le repo de WordPress, mais plutôt sur ces environnements-là indépendants. Donc, il y a plusieurs avenues qui ont été envisagées, développées par différentes personnes. Et là, entre le moment où la guerre, si on veut, a débuté et aujourd'hui, ben là, on commence à voir ces solutions-là qui sont déployées. Je dirais que l'adoption, ça va être un très, très gros enjeu. Je veux dire, pour des gens, mettons, comme nous qui sommes dans cette industrie-là, d'aller se connecter là-dessus, c'est pas un problème. Pour monsieur, madame, tout le monde, qui sait même pas que ça existe, je pars un nouveau site WordPress, comment je tombe sur ce genre de produit-là ou de solution-là, puis quel est l'enjeu réel, c'est plus... je me questionne beaucoup sur l'adoption à venir pour ce genre de truc. Parce que WordPress a été créé dans le but de pouvoir être opéré par n'importe qui. Mais là, c'est n'importe qui, mais avec des connaissances de comment ça fonctionne, de certains enjeux. Donc, malgré le fait que ce soit comme une très, très bonne initiative, j'ai l'impression qu'il y aura potentiellement des choses technologiques qui seront mises en place du côté de Mullenweg et d'Automatic dans le but de ne pas faciliter, peut-être pas bloquer, mais du moins de ne pas faciliter l'intégration de ce genre de technologie-là. Et l'avenir, l'avenir est intéressant par rapport à ça.
Ça va être intriguant. Puis dans, de ma compréhension, ça veut dire que CWP Engine va énormément aller vers ça. Fait que comme lui a déjà un tirando quand même assez fort dans l'industrie, va de sa réflexion, de son tirando-là, de pouvoir amener suffisamment de gens pour créer un mouvement de masse vers sa direction, tout en considérant que l'autre côté automatique va faire complètement l'inverse pour faire ça. Quitte à ma perception, c'est ça va créer un schisme important dans cette communauté-là où on va soit polariser d'un côté ou de l'autre. Un peu malheureusement, parce que ça défait un peu l'idée open source.
Oui, ben en fait, c'est ce qui est intéressant. C'est que WP Engine a les ressources financières et a le bassin de site pour pouvoir tremper son gros orteil dans cet océan et peut-être avoir un impact. Ce qu'il faut savoir, c'est que présentement, la façon de fonctionner pour le déploiement de thèmes et de plugins, l'espèce de clé unique qui permet d'identifier un plugin ou un thème, c'est le nom physique du répertoire. Donc, par exemple, si je lance un plugin qui s'appelle MaximPress, que je le mets sur le dépôt de WordPress et que quelqu'un lance MaximPress et le met sur cet autre dépôt, on risque d'avoir un conflit. Et ça, c'est déjà un enjeu qu'on a présentement, là. Donc, par exemple, si moi, je crée une extension qui existe déjà, je la dépose sur mon propre site et je lui donne le même, donc le nom du répertoire et le même nom qu'un plugin existant. Si, mettons, je déploie ma version 1.0 et que le plugin existant va être rendu à la version 2, bien, le processus de WordPress va aller regarder sur son dépôt. Est-ce que ce folder-là existe? Oui, il est rendu à une version supérieure à la version que j'ai d'installer. Il va me proposer une mise à jour. Et là, je vais mettre à jour de mon propre plugin à un autre plugin. Donc là, je vois un potentiel conflit de dire, OK, supposons que WP Engine dit... Nous, tous nos plugins, on va les préfixer par WPE- pour être sûr de ne pas causer de conflit. Ben, WordPress a juste, ou Mullenweg a juste à dire, ah ben nous, on va permettre la possibilité de créer des trucs qui s'appellent WPE- et là, volontairement causer des conflits, volontairement causer de la confusion. Donc ça, c'est une possibilité. Je ne dis pas que ça va se produire, mais on l'a déjà vécu, nous, chez des clients qui créent des trucs sans... comprendre les tenants et aboutissants des noms de répertoire. Par exemple, on passe à des trucs, si je fais juste créer un plugin que je l'appelle Security, ben Security, c'est tellement générique qu'il risque d'avoir quelque chose qui s'appelle Security. Donc là, on peut voir que ça peut... C'est très, très facile de faire en sorte de créer de la confusion. Puis après ça, ben si moi, je suis chez WP Engine puis je fais une mise à jour d'un plugin X vers un plugin Y sans m'en rendre compte, ça peut ne pas être le fun. Et là, si on se rapproche un peu du présent, le 1er avril dernier, Cloudflare a décidé de lancer MDash, donc une solution où eux vont, dans le fond, dire que ce sera le remplacement, si on veut, de WordPress. Donc, souhaite profiter de ce chaos pour inciter les développeurs à changer de WordPress vers cette nouvelle solution. Donc, EMDash, qu'est-ce que c'est? C'est une solution créée par l'équipe de Cloudflare. Cloudflare qui contrôle le trafic sur le web. Une très, très grande solution là, de contrôle de DNS, de caching et de règles avancées là, pour la sécurité des sites web. Et eux ont décidé de créer cet outil-là basé sur Astro. Donc, qu'est-ce que Astro? C'est un framework JavaScript qui permet de créer des sites web avec... Dans le fond, c'est quand je crée ma page, je la génère une fois sur le serveur. Donc, c'est uniquement le rendu qui est servi. Donc, ça permet d'être très, très rapide, qui est une technologie qu'utilise Cloudflare. Et eux, ce qu'ils ont développé, c'est la couche pour dire, OK, oui, ça fonctionne bien pour les développeurs, Mais nous, on va développer une espèce de dashboard où tu vas pouvoir créer ton contenu un peu comme WordPress. D'ailleurs, le dashboard ressemble étrangement à celui de WordPress. Et cette solution-là se déploie directement dans notre infrastructure. Donc, il y a des gains en termes de rapidité, d'efficacité et leur claim to fame, c'est l'aspect sécurité. Donc, eux, ce qu'ils ont décidé de développer, c'est de faire en sorte que les plugins qui seront déposés sur cet environnement-là seront isolés, donc sandbox, pour éviter les problèmes, le piratage, ce genre de choses, qui en théorie est une très, très bonne idée. En pratique, ça vient avec certaines limitations, certaines contraintes. Puis tu sais, on le voit sur nos téléphones. Là. J'installe une application. Je sais pas si tu te rappelles, mais au départ, tu allais sur le App Store, tu downloadais une application, supposons une application lampe de poche, qui est juste pour allumer la caméra, c'est-à-dire la flashlight de ton téléphone. Et là, ça te demandait, est-ce que tu me permets d'avoir accès à Internet, à tes contacts, à ton téléphone, à tes courriels? Puis tu es comme, oui, on s'est supposé être une flashlight. Puis là, les gens, ben, ils lisaient pas, puis ils faisaient, OK, c'est bon, je te permets d'avoir accès à tout. Puis à un moment donné, ben là, les règles ont comme changé, puis les demandes sont devenues explicites. C'est-à-dire, j'installe l'application sans savoir de quoi il aura besoin. Et au fur et à mesure où ma lampe de poche dit « Me permets-tu d'avoir accès à ton carnet de contact? » Ben, je suis en mesure de dire oui ou de dire non et de donner des permissions de manière plus granulaire. Donc, l'environnement WordPress, c'est vraiment quand j'installe le plugin, il fait ce qu'il fait. Donc, un peu l'ancienne mentalité. La mentalité de MDash, c'est de dire non. Le plugin devra déclarer de manière officielle ce à quoi il doit avoir besoin et les gens devront approuver ou pas. Ma grande question, c'est est-ce que les gens comprendront les tenants et aboutissants de ces choses? Tu sais, par exemple, mettons, est-ce que Facebook devrait avoir accès à mes photos? Ben non. OK, mais là, quand tu veux partager une photo, il faut qu'il y ait accès. Fait que là, je sais pas si on a déplacé le problème ou si ça règle vraiment quelque chose.
Pour monsieur et madame tout le monde, on a juste déplacé le problème. Parce que tu parles de Facebook, c'est un bel exemple. Parce que moi, mon Facebook sur mon téléphone, il est effectivement verrouillé, il n'a pas accès à ma caméra, il n'a pas accès à mon micro, des choses comme ça. Mais il arrive des fois que tu veux partager une photo. Fait que là, l'effort de partager une photo est quand même assez grand quand que tu t'es mis dans ces barrières-là. Faut que tu le défasses temporairement, tu partages ta photo, puis ensuite tu rebarres ou tu t'oublies, c'est plus barré. Fait que pour monsieur et madame tout le monde, dans un contexte d'utilisation courante, effectivement. Là, j'ai l'impression que l'a priori de Cloudflare, c'est que c'est des développeurs qui vont faire ce genre de travail-là. Donc, eux sont mieux habilités à mieux circonscrire. Puis effectivement, d'un point de vue cyber, de mon point de vue, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir découplé les plugins du moteur principal. Parce qu'effectivement, dans WordPress, si tu as un plugin qui est cassé, ben tout ton site est cassé finalement. Puis à une certaine époque, j'en faisais des ménages de sites, puis c'est juste, il s'agit d'un plugin, il a repris le contrôle du site au complet, il a tout brisé, puis tu sais, bon, tu repars de zéro essentiellement, là, en général. Puis là, parce que c'est incrusté à peu près partout dans le site, là, c'est très difficile. Donc, de cet aspect-là. Mais là, après ça, l'applicabilité dans le monde réel, est-ce que la majorité des gens qui vont faire ça sont monsieur et madame tout le monde ou des gens qui n'ont pas vraiment de connaissances ou ça va être mis dans les mains des compagnies comme la tienne qui sont habilitées à savoir la différence et à mettre les choses en place. Mais en même temps, les compagnies comme la tienne, même avec WordPress, font les efforts suffisants pour pas se mettre dans le pétrin comme monsieur et madame tout le monde avec WordPress. Fait qu'on tourne en rond finalement, c'est que le gain, il est pour monsieur et madame tout le monde parce que de toute façon, les équipes de développement sont déjà en général habilités à pas se peinturer dans le coin avec WordPress qui les ajoute, qui sont ajoutés par Cloudflare.
Oui, totalement. Puis, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est même si cette solution-là, que j'ai pris le temps d'analyser, que j'ai regardé froidement, on s'entend là, je gagne ma vie avec WordPress. Donc, j'aurais toutes les raisons du monde de démolir l'outil puis dire à quel point c'est vraiment mauvais. À mon sens, ce n'est pas mauvais. OK? Le framework Astro qui n'est pas contrôlé par Cloudflare part d'une prémisse très, très intéressante où on vient séparer les aspects statiques des aspects dynamiques du site. Comme par exemple, si je vais sur la page d'accueil de mon site web et que je présente mon entreprise, ça c'est statique, ça ne changera pas. Pourquoi je régénérerais le code HTML à toutes les fois que je recharge la page? Ce que fait WordPress. Cette partie-là, je la comprends, je la trouve très, très logique. Si dans la même page, j'ai au bas les derniers articles que j'ai publiés, ben, les derniers articles vont varier selon le moment où je publie. Donc, cette partie est dynamique. le framework Astro permet justement, avec une notion qu'il appelle des islands, donc des îles, de dire cette portion de la page est statique, cette portion est dynamique. Donc, si dans ma page, je n'ai que du statique, j'ai pas besoin de régénérer. Donc, c'est vrai qu'il y a un gain en termes de livrer l'information, de moins faire travailler le serveur, de 100%. Mais aujourd'hui, j'ai un site WordPress. Est-ce que je le refais au complet dans cette technologie? La réponse, c'est non. Le premier commit a été publié sur par rapport à Amdash le 1er avril. La solution a été déployée le 1er avril. Le blog post annonçant tout ça a été publié le 1er avril. Présentement, on enregistre, on est le 5 mai. Il s'est pas passé grand-chose. Puis moi, j'ai vu des gens commencer à adapter ça, à adopter cette solution-là et à publier. La beauté, c'est que Cloudflare a les reins solides et que ça risque pas de tomber d'ici 2 mois parce que le développeur a trouvé un nouvel emploi puis abandonne le projet. Donc, Cloudflare, c'est sérieux, ça fait du vrai argent, ça utilise leur infrastructure. Après ça, la question, c'est un nouvel environnement, il y a zéro plugin, il y a zéro communauté, il y a personne qui sait comment ça fonctionne, il n'y a pas d'experts présentement dans cette technologie-là. Donc, c'est le contre-coup que malheureusement, cette solution-là ne peut rien faire à court terme pour combattre WordPress. Après ça, l'avenir nous le dira. Est-ce que moi, je considère de me tenir au courant puis de voir l'évolution? Assurément. Est-ce que demain matin, si j'ai un nouveau client puis qu'on me dit le site ne doit pas être en WordPress, est-ce que je me lance là-dessus? Non, je ne crois pas. Je pense que ce serait... C'est trop tôt pour trancher. Puis moi, j'ai pas vraiment, tu sais, j'essaie de réduire le risque de mes clients. Présentement, cette solution-là est remplie de risques. Tant mieux ceux qui l'adoptent, tant mieux ceux qui font les tests, qui pognent les bugs. Peut-être que dans 1 ou 2 ans, je revisiterai. Je vais me tenir au courant parce que je trouve ça très intéressant. Mais présentement, est-ce que WordPress est mort? Est-ce que WordPress est à risque? Pas du tout. Et même si le 40-50% tombait de moitié ou plus que ça, de 4 fois ce qu'on a présentement. Si WordPress contrôle 10% des sites sur le web, je veux dire, c'est assez pour bien en vivre. L'océan est assez grand pour tout le monde. Et la preuve, c'est que le deuxième compétiteur est en bas de 5%. Donc, si on tombait à 10 puis qu'on perdait tous ces sites, ce serait pas majeur. Donc, mais par contre, je trouve qu'il y a des belles choses. Ils répondent à un problème qui est réel. La façon de développer, de pouvoir scaler l'architecture, c'est super intéressant. Tant qu'à moi, un peu trop tôt pour dire est-ce qu'on lâche WordPress et on s'en va là-dessus? Je me garderais personnellement une petite gêne, mais j'ai vu des gens dans mon entourage qui ont déjà lancé quelque chose là-dessus et qui trouvent donc ça magique et agréable. Moi, ce que je me dis, c'est reparlons-nous dans 1 an puis voyons si la lune de miel est encore là.
Ouais, puis dans ton cas, t'as une business qui t'appuie, puis tu l'as dit clairement sur WordPress. Fait que tu sais, toi, il y a un coût d'affaires de faire ce changement-là. Puis même pour tes clients, il y a un coût aussi s'il y a le désir de faire ce genre de choses-là. C'est un luxe de pouvoir tester de nouvelles technologies. Et c'est que la plupart des gens oublient. Et après ça, est-ce que WordPress va être MDAL va être encore là dans 1 an? C'est incertain, on ne sait pas encore. Est-ce que la communauté va grandir? On ne sait pas encore. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est comme quand l'AI est arrivé en fin 2022, est-ce qu'on savait ce que ça allait mener maintenant? Non, on est en train de découvrir. Et on est encore en train de découvrir tout ce que les ramifications de ce que ça fait. Fait que c'est encore en changement, encore en fluctuation. Puis c'est un risque de prendre un avenue business sur quelque chose qui est aussi en fluctuation que ça. Et on le voit, là, certains joueurs là, sont basés juste sur le côté AI. Cursor n'a plus de valeur à l'heure actuelle parce qu'il est déjà remplacé par d'autres solutions. Donc, son secret sauce a commencé à perdre la valeur. Donc, il a construit sur quelque chose qui est en train de s'effondrer en dessous de ses pieds parce que le marché change très, très rapidement. Fait que c'est un peu dans cette perspective-là. Fait que c'est intéressant de voir ces joueurs-là. Et juste pour l'exemple, parce que tu mentionnes le deuxième plus gros joueur sur le marché qui est en bas de 5%, c'est qui? Le deuxième plus gros joueur qui est dans le marché du CMS.
Ah, j'ai pas revalidé, là, mais c'était dans les Drupal, Joomla, ce genre de technologie-là. Puis là, ça dépend vraiment, est-ce qu'on parle de open source ou si on inclut les Wix, les Squarespace qui entrent dans la catégorie des CMS. mais qui sont pas open source. Fait que de mémoire, là, je crois que c'est Drupal ou Joomla qui était.
Je savais pas s'il existe encore ces deux frameworks-là. Dans l'ancien temps, quand j'évaluais ce genre de choses-là, j'avais joué avec. Et chacun, et le WordPress à l'époque avait semblé la plateforme la plus accessible, la plus facile d'accès, et c'est encore le cas maintenant. Fait que j'étais très, très curieux par rapport à ça. Fait que bref, on va voir comment le marché va évoluer. De toute façon, puis là, juste pour terminer sur WordPress automatique puis le oui. P-Engine sont en cours à l'heure actuelle pour décider quelque chose, c'est ça?
En fait, les dernières informations, c'est que au début juin, il devrait y avoir de la progression sur le dossier. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas un juriste, donc ce que je vois, c'est qu'il y aura de l'avancement à ce niveau-là, mais tu sais, à quel point c'est-tu juste une requête technique puis que c'est une affaire de on signe un truc puis on se revoit dans un an ou quoi que ce soit, là, mais le début juin, c'est devrait y avoir la suite là, du dossier. Mais moi, je m'attends à ce que, si j'avais une prédiction à faire, que le dossier va probablement tenter d'être réglé hors cours par Mullenweg et que WP Engine sera potentiellement très gourmand pour s'entendre hors cours. Autrement, je crois que tu as voulu aller là, allons-y, puis on va voir qu'est-ce qui va en ressortir. Mais au final, plus ce conflit s'étire, moins c'est bon pour c'est pas bon pour tout le monde, c'est bon pour personne, là, tout ça. Là. Ça fait mal à WordPress, ça fait mal à WP Engine qui vend des trucs WordPress, qui vend des produits WordPress, qui vend des services WordPress, des abonnements WordPress. Donc, on va voir en termes du conflit, là, est-ce que la maturité reviendra à la table des négociations? Est-ce qu'il y a une négociation? Est-ce qu'il y a moyen de s'entendre? C'est ça qu'on... C'est, d'après moi, ce qui va se passer en juin là, risque de nous donner un bon aperçu de la suite des choses.
Parfait. De toute façon, on se redonne rendez-vous probablement dans un an, voire un an de MDash, puis un an après ce qui va se passer, voir s'il y a eu des rebondissements qui valent la peine et peut-être on laisse faire une résolution par rapport à cette situation-là, quelle qu'elle soit, pour assurer une forme de stabilité dans cet écosystème-là.
Je pense que pour tout le monde, c'est vraiment ce qui doit se produire. Espérons que les gens concernés sont au courant et comprennent ces enjeux qui feraient du bien à tout le monde là, si on peut juste continuer d'évoluer, qu'il y a de la place, tu sais, il y a du poisson en masse dans cet océan-là. Il y en a assez pour tout le monde. Prenons notre juste part et voilà.
Oui, merci beaucoup pour ce partage-là. C'est très intéressant. Moi, je suis plus en marge de ces univers-là, mais ça me touche quand même de façon indirecte. Fait que je trouve ça important qu'on amène cet état de la nation où on est rendu dans ce défi-là. Merci.
Bon, merci.